commence par m'excuser de ne pas avoir été ici hier au soir et ce matin. Ça vous a donné un petit moment d'attente pour augmenter le désir d'entrer à fond dans ces quelques jours de retraite. Je réclame dès le point de départ votre prière. Vous avez su qu'on a eu tous une profonde souffrance. Un de nos frères parti en Guinée à l'appel de l'archevêque de Conakry, Monseigneur Sarah. Il n'y a rien là-bas. À cause des régimes politiques et les conséquences des régimes politiques. Ils ont connu des temps de persécution terribles avec toutes les conséquences. Tous les missionnaires étrangers ont été évacués. De sorte que quand il est passé à Rimont pendant il y a quelques mois, au mois de septembre, je crois, le père Marie-Alain, qui était prieur à ce moment-là à Rimont, a été très touché intérieurement par ce qu'il a dit. Il est passé aussi à Saint-Jodard et on a compris qu'il fallait aller vers ceux qui étaient dans la plus grande misère. Et c'est pour ça que au dernier chapitre général, on a accepté, du reste, à la demande du père Marie-Alain, on a accepté de fonder en Guinée et accepté de fonder en Lituanie. Des deux côtés, il y avait une demande extraordinairement forte de la part de deux archevêques disant ouvertement, on voudrait recréer un diocèse. Et pour recréer un diocèse, il faut un grand séminaire, il faut former des prêtres, et on n'a personne. J'avais demandé au cardinal, le cardinal a dit, on n'a personne. Alors à ce moment-là, on sait que la communauté Saint-Jean existe. On dit que c'est une communauté jeune. Il y a beaucoup de vocations. Allez frapper à la porte. Et l'archevêque de Vilnius, en Lituanie, l'archevêque de Conakry, en Guinée, tous les deux ont frappé fort, très fort. Et comme le chapitre dernier, au mois de janvier, était sur la pauvreté, être des mendiants. Pour être des mendiants, il faut écouter les ceux qui sont des mendiants et qui frappent. On a trouvé que c'était un petit signe du bon Dieu et qu'il fallait répondre. Alors on a envoyé à Vilnius le père Philippe-Marie et en Guinée le père Marie-Alain. Humainement, c'était un peu de folie. Ce sont les deux premiers de la communauté Saint-Jean. Et vous comprenez que pour moi, je m'appuyais beaucoup sur les deux. Il y avait un tel appel, on a tous dit oui, il faut faire ça. Et j'ai appris que samedi, le frère Jean, le père Jean, qui était ermite, qui était un homme très extraordinaire, vous savez comment sa vocation s'est faite. Il était ingénieur, il avait tous ses diplômes, il a tout brûlé, puis il est parti à la recherche de Dieu. Le père est Emmanuel l'a rencontré. Père Manuel lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je cherche Dieu. Père Manuel lui a répondu, suis-moi. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Montmorin. Et le Père Emmanuel, qui aimait fonder, c'est un moine qui aime fonder son abbaye, de la construire, comme à Montmorin sont des ermites, il a construit comme ça toute une série d'ermitages pour des ermites femmes d'un côté et des ermites hommes de l'autre. Et le Père Jean était merveilleux pour cela. Il aimait énormément le Père Emmanuel. C'était son appui. C'était son Jean-Baptiste. Il était farouche. Je vous raconterai une petite histoire du Père Emmanuel qui m'a raconté du reste. Qu'on connaît maintenant, ça fait partie des légendes de la communauté, légendes dorées, qu'on devrait écrire du reste, parce qu'on les oubliera, elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles parce que ça montre que la Providence est là, et que les choses du Moyen-Âge existent aujourd'hui, sous une autre forme, mais c'est tout à fait des choses du Moyen-Âge, ça, de l'action directe de Dieu. Il y en a beaucoup comme ça. Je me souviens tout à fait au début, hein, il était 7, je rencontrais quelqu'un qui était déjà au passé, il n'était pas un évêque, mais juste après. Il me dit, mais Père Philippe, vous engagez 7 jeunes, est-ce que vous avez une fortune derrière vous? Je dis, non, j'ai rien, je suis moine, je suis religieux, j'ai rien. Et la dot normale que mes parents ont donnée quand ils sont morts, c'est pour les Dominicains. C'était aux Dominicains. Et je ne veux pas réclamer ça aux Dominicains. Ça ne m'appartient pas. Ça a été donné. J'ai rien. Alors il m'a dit, mais c'est une folie. Il dit, oui, c'est une folie. Je sais bien que c'est une folie. Et Dieu, de temps en temps, demande d'être fou pour lui. C'est-à-dire de dépasser les prudences humaines. Et j'ai répondu, si c'est de Dieu, Dieu y pourvoira. Si c'est pas de Dieu, il vaut mieux que ça se termine très vite. Et donc, très vite, on voit, mais non, Dieu n'est pas là pour nous aider, donc c'est signe. Et si je vous montrais comment tout était des petits signes de Dieu, de façon extraordinaire, merveilleux. Jusque maintenant, n'ayant rien, étant des mendiants, dans un monde où c'est difficile d'être mendiant, puisqu'il y a des crises économiques, bien le Seigneur est toujours là. Et ça fait quand même 15 ans, 17 ans. Alors je reviens au Père Jean, pour vous montrer le caractère de Père Jean. Le Père Emmanuel terminait la construction en briques d'un ermitage. Et pour ça, il avait deux gars du village d'à côté qui étaient venus l'aider. Donc ils n'étaient pas religieux. Ils étaient là par amour pour le Père Emmanuel et par amour aussi pour se donner. En construisant l'habitation d'un ermite. Au terme, quand on a mis comme de bons maçons le bouquet au sommet, la branche au sommet pour montrer que c'était terminé, l'ouvrage des maçons, le Père Emmanuel était tellement joyeux. Il était de Bordeaux, hein. Alors, à Bordeaux, on raconte de temps en temps de belles petites histoires. C'est tellement joyeux. Il dit, demain, eh bien, on aura le lièvre au champagne. Très bien. À partir de ce moment-là, le frère Jean a pris une tête affolée. Quand les deux jeunes sont partis, j'ai dit au père Emmanuel, c'est terrible, vous mentez. Il m'a dit quoi ? Et voir votre lièvre, votre champagne, vous ne l'avez pas. Et vous dites que demain, le lièvre au champagne, qu'est-ce qu'on aura ? Rien. Alors qu'est-ce que vous allez dire ? Vous avez menti ? C'est pas bien. Alors le père Emmanuel a reçu la leçon. Il est remonté chez lui, puis il s'est mis à prier. Enseignants, vous voyez, je suis un pauvre type. Je voulais faire plaisir et puis j'ai scandalisé, frère Jean. Enlever le scandale. Montrer que je n'ai pas voulu mentir, que j'ai dit ça. Il n'a pas dit en bordelais que je suis, mais presque, n'est-ce pas? Pendant qu'il priait, on tape à la porte. Il va, il n'était pas en extase. Il va. Qu'est-ce qu'il voit ? Une femme qu'il connaissait bien, qui était la femme du restaurant, du patron du restaurant, de Montmorin. Puis on a nettoyé la cave, père, puis on a trouvé dans le fond de la cave deux bouteilles de champagne. On ne savait pas quoi en faire, on a dit, on va les porter au père Emmanuel, lui il saura quoi en faire. Alors le père Emmanuel a recommencé sa prière, et on s'est dit merci. Et maintenant, il me faut le lièvre. C'est plus difficile de le trouver dans le fond de la cave. Très bien. Le lendemain, il partait dire sa messe pour les ermites. Qu'est-ce qu'il voit à la porte de l'église ? Un lièvre, un gros lièvre, avec un jet de sang. Encore tout chaud, il regarde, il voit dans les sommets un aigle. L'aigle a eu sans doute peur de l'automobile qui arrivait. Tu vois-t-il, je sais pas. Tu vois-t-il que le lièvre est tombé pile à la porte de la chapelle. Alors on peut croire au hasard, mais c'est rare qu'un hasard aussi bien organisé. Les deux, la conjugaison du champagne et du lièvre. Alors le père Emmanuel a pris le lièvre, il a dit au père Jean, tu vois. Et le père Jean a dit oui. Pardon, j'aurais pas dû vous dire ça hier. C'est plus fort que moi. Et Jean était un homme de Dieu, comme ça se fait plus, un homme des bois, vivant uniquement pour Dieu, uniquement. On le connaissait, on l'aimait tous beaucoup, moi je l'aimais beaucoup, parce qu'il était pas bête, vous savez, quand il suivait les cours de philosophie, il comprenait. Et il me disait, ah, oh, c'est pas ma vocation, mais ce que j'aimerais continuer. Il est parti là-bas. On m'avait dit qu'il était fatigué. On a demandé à un médecin. Je lui ai demandé à lui, je lui ai dit, dites-moi, franchement. Il a dit, non, je suis très heureux de partir. Très heureux de partir pour offrir toute ma vie. Et puis il est mort là-bas. Comment ? Je n'en sais rien. On l'a trouvé mort. À 4h du matin, samedi matin. Alors, on met cette retraite sous sa protection, si vous voulez bien. parce que je crois que c'est quelqu'un qui a tout donné au Seigneur, radicalement. C'est un saint moderne. Je crois que le Saint-Esprit aime ce genre de saint. Au Moyen-Âge, c'était autre chose. Le jongleur de Notre-Dame, on voit très bien. Et lui aussi était un jongleur de Notre-Dame, à sa manière. Il aimait beaucoup la petite Vierge Marie. Alors priez pour lui et priez-le. Et on le priera ensemble. La retraite est sûre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils se connaissent bien, ils s'aiment bien. Tout à fait différent. C'est la première fois que j'ose prêcher sur la petite Thérèse. Il faut arriver à un âge avancé pour oser. C'était plus facile pour moi de prêcher sur l'Apocalypse que de prêcher sur la petite Thérèse. Parce que la petite Thérèse, pourtant j'ai bien connu Marthe. Et Marthe prolongeait la petite Thérèse. Des liens très forts entre Marthe et la petite Thérèse. Et quand Marthe trouvait qu'il était temps de gagner le ciel, la petite Thérèse venait lui dire « Je vous demande de rester pour continuer mon œuvre. » Et la petite Thérèse venait souvent chez elle, la réconforter et l'aider. Quand il y a eu un moment où Marthe est restée un mois bouclée, comme dans un sépulcre, le père Finet devait être opéré, et Marthe avait demandé que personne vienne la voir. Alors elle était bouclée. Je l'ai vue après, j'ai dit, c'est pas trop dur, Marthe. Marthe a dit, non, c'était bien, c'est ce qu'il fallait. Thérèse était venue plusieurs fois l'aider, la soutenir. Comment, je n'en sais rien. Je ne voulais pas être curieux quand Marthe me disait ça. Sans aucune importance, hein. Qu'elle apparaisse en carmélite, qu'elle apparaisse, je ne sais pas moi, comme une présence divine, de tout ce qu'elle était là et qu'elle réconfortait Marthe. Il y a un lien très fort. Comme on est très lié à Marthe, on est très lié à la petite Thérèse. Et la petite Thérèse est évidemment un cadeau de Dieu. Vraiment un cadeau de Dieu. Mais tellement caché. Tellement caché. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de propagande et qu'il y a beaucoup de photos de petite Thérèse qu'elle n'est pas quelqu'un de très caché. Très très caché. C'est pour ça que c'est si difficile de parler d'elle. Mais je crois que c'est nécessaire. Parce qu'elle doit nous aider beaucoup. Et nous devons l'aimer beaucoup. Et lui demander de nous aider. De nous aider à être fidèles. C'est ce qu'on essaiera de faire. Là, je vous demande là aussi de prier. De la prière, la petite Thérèse. Que cette retraite soit une neuvaine de prière par rapport à elle. Demandez qu'elle nous bénisse tous très fort. Vous avez tous des tas de choses à lui confier. J'en suis sûr. Il faut lui confier. Et lui demander que, durant cette retraite, elle guérisse les cœurs, les âmes. Et elle nous guérisse tous. Et tous ceux que nous aimons, qui ont besoin de son aide, il faut qu'on la prie très fort. Qu'elle soit là pour guérir l'âme de tous ceux que nous aimons. Avant d'entrer dans son mystère, dans son lien, avec Marie, avec Jésus, avec le Père. C'est une retraite que nous faisons. Et donc, vous savez bien, les retraites qu'on fait ici sont des retraites très silencieuses. Il faut qu'il y ait un silence complet dans la cour. Si vous avez besoin de parler, allez dans le bureau. Partez dans la campagne, dans la montagne. Mais respectons le silence ici. Je ne ferai pas le gendarme, hein, ni le père prieur. Mais que chacun d'entre nous soyons très désireux de garder le silence. Pour que l'Esprit Saint puisse descendre en surabondance. C'est très important, vous savez bien, c'est utile qu'il y ait un prédicateur. Parce que sans prédicateur, peut-être qu'il y aurait moins de monde. Sans prédicateur, on aurait de la peine à rester dans le silence toute la journée. On n'est pas des ermites. Et ça ne se fait pas d'un seul coup d'être ermite. Mais Marthe Robin disait toujours, les prédications sont en vue du silence de la prière. C'est pour le silence de la prière, et non pas l'inverse. Et la retraite n'est bonne, elle porte tous ses fruits, que dans la mesure où ce silence de la retraite est très fort, est très bon, très divin. Mais ce ne soit pas seulement le silence, on doit garder le silence. L'impératif catégorique, hein. Je dois garder le silence, autrement j'ai une amende. Prédicateur, fait fortune, n'est-ce pas ? Une très grosse amende pour tous ceux qui parlent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un silence d'amour. C'est un silence qui vient d'en haut et qui doit nous prendre entièrement. Mais d'une manière intérieure, c'est l'amour qui grandit en nous qui réclame le silence. Parce que l'on est porteur d'un secret. Et pendant la retraite, on sera porteur du secret de la petite Thérèse. Voyez, on ne peut dévoiler le secret d'un saint que si on est en face de saints. Alors on est tous des saints en promesse. Personne d'entre nous n'oserait dire « Je suis un saint. Mettez-moi dans une niche, je ne bougerai pas, je ne parlerai pas, je suis un saint. » Non, non, c'est pas ça du tout. La sainteté, c'est quelque chose d'intérieur. Pour recevoir vraiment le message de la petite Thérèse, pour le recevoir en profondeur, il faut que nous-mêmes, nous la supplions de nous le transmettre et qu'on soit dans cette attitude de prière, de silence, conséquence à la prière. Silence intérieur. Quand on porte un secret, on devient silencieux. Il y a des zones de silence. Mais je devrais rester immobile, mais c'est pas mon caractère. Là, il faut qu'il s'habitue. Il faut des zones de silence en nous. Qui proviennent des différents secrets que nous portons. Et quand il y a un secret divin, on sait qu'on est aimé par le Christ. Maintenant, on sait qu'il y a un lien d'amour avec Jésus. Chacun d'entre nous, du reste, notre âme a été consacrée au baptême, consacrée au Christ, unie au sacerdoce du Christ, unie au Christ au roi, unie au Christ au prophète. Et notre grâce sanctifiante nous unit à Jésus. Et nous avons ce secret à porter. Jésus nous aime. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus nous aime. Il nous a aimés le premier. Il continue de nous aimer. Et il nous demande de l'aimer. Et nous devons l'aimer. Il faut découvrir ce secret. Notre vie chrétienne n'est une vie que lorsque nous découvrons ce lien profond avec Jésus. Et tant qu'on n'a pas découvert ce lien profond avec Jésus, notre vie chrétienne risque de rester une vie comme celle de l'Ancien Testament. C'est saint Augustin qui disait ça de son temps. Et je crois qu'il dirait ça avec beaucoup de force aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens restent de la première alliance et ne sont pas de la seconde alliance à travers le cœur de Jésus et dans le cœur du Christ. Et c'est vrai, l'aspect moral qui est nécessaire, surtout quand on vit un monde où la décadence est si forte, ce n'est pas cela qu'il y a de premier dans notre vie chrétienne. Ce qu'il y a de premier dans notre vie chrétienne, c'est notre foi, c'est notre espérance, c'est notre charité. C'est ça qu'on doit exercer en premier lieu, au plus intime de nous-mêmes. Et c'est notre lien de foi à l'égard du Christ, c'est notre lien d'espérance à l'égard du Christ, c'est notre lien de charité à l'égard du Christ, que nous devons cultiver le plus qu'on peut, de manière très simple, pas en faisant des grands discours, non, pas du tout, en aimant, en disant que Jésus est notre seule espérance, en appuyant de toutes nos forces sur Jésus et nous laisser enseigner par lui, par la foi. Le chrétien, c'est celui qui est lié à Jésus, qui est du Christ. Qu'est-ce qu'il y a de semblable en nous, actuellement, par rapport à Jésus? C'est ça le grand examen de conscience de la retraite. Dans la retraite, vous avez un tout petit peu plus de temps. Alors le soir, faites un petit examen de conscience, ou un grand examen de conscience. Au niveau de la foi, de l'espérance et de la charité. Et ça, c'est très important. C'est le but de la retraite, vous voyez. Faire le point en face du Christ. Pas un point psychologique, hein. Un point divin. Quel est le regard du Christ sur moi actuellement? Ça, c'est merveilleux. Jésus nous le fera comprendre. J'en suis sûr si on lui demande. Il ne s'agit pas d'un examen psychologique, hein, tâtez le pont. Si vous mourrez cette nuit, à quoi ça sert de tâter le pont? Rien du tout. Hein. Le père Jean est mort brusquement, je ne crois pas du tout qu'il savait qu'il mourrait. Non. Je vous donne un petit exemple. Tandis que si vous vous mettez en face de Jésus et que vous lui demandez pardon de toutes les bêtises que vous avez faites. Et on en fait tout le temps. Ce ne sont que des bêtises. C'est vrai, c'est très rare. Je crois pas que ce sont des fautes graves. Ça peut arriver. Je crois pas. Alors, il faut supplier Jésus de nous purifier, de nous donner à l'égard de nos péchés, de nos fautes, un remords, de ne pas vouloir nous excuser à cause de nos fragilités. Vous laissez Jésus nous pardonner. Et c'est bien plus grand de recevoir le pardon du Christ que de nous envelopper de nos excuses. Nos excuses sont temporelles. Nos excuses. C'est nous ou un autre, parce que quand on veut s'excuser, il y en a toujours quelqu'un d'autre. Vous savez bien, c'est ce qu'a fait notre grand-père Adam. Quand il est arrivé après la faute, il dit, c'est la femme. Puis la femme dit, c'est le démon. Le démon. Il est obligé de recevoir la punition. Si Adam s'était mis à genoux, Seigneur, je suis un orgueilleux. Le défaut dominant de chacun d'entre nous, c'est l'orgueil. Pas la peine de faire une retraite là-dessus. Le défaut dominant pour chacun d'entre vous, c'est l'orgueil. Je peux le dire, j'ai encore confessé personne. C'est l'orgueil, ça c'est bien évident. Et le monde, aujourd'hui, s'absout d'un orgueil collectif. Non, c'est pas moi, c'est un autre. On retrouve le péché, l'attitude d'Adam, et collectivement aujourd'hui. C'est... Que voulez-vous, j'ai eu un père et une mère qui étaient des imbéciles, ils n'ont rien compris. C'est de leur faute. Que vous, je vis dans une communauté impossible. Mais non, et vous? C'est quand même vous qui êtes en prétend. Ah oui, mais moi je ne savais pas. Oui, c'est la femme, c'est le démon. Ça me frappe beaucoup de voir ça. Et Dieu désire tellement faire miséricorde. Et on l'empêche. Empêcher Dieu de faire de la miséricorde, c'est le péché le plus grave. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Puisque c'est lui qui fait miséricorde. Et c'est lui qui est envoyé comme paraclet pour faire miséricorde. C'est bon, pendant la retraite, et c'est même nécessaire, de se mettre en face de Dieu, en toute simplicité et en toute confiance, en sachant que Dieu nous aime, et que son amour a été le premier, et que son amour demeure toujours le premier. Et il nous aime actuellement, et il n'a qu'un seul désir, c'est de nous envelopper sa miséricorde. Mais on ne peut jamais faire la miséricorde tout seul. Pour faire la miséricorde, il faut un mendiant. Pour faire la miséricorde, il faut un pauvre. Il faut quelqu'un qui avoue sa faiblesse, qui avoue sa misère, et qui la met en face de Jésus, voilà. Et la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Christ, elle est étonnante. Elle ressuscite les morts. Peut-être pardonné. Et Jésus nous dit lui-même, puisqu'il faut pardonner 7 fois, 70 fois, 7 fois. C'est donc qu'il faut pardonner indéfiniment. Et pour ça, il faut avouer pécheur. Et pour ça, il faut être un pauvre. Il faut être un humble. Il faut la pauvreté et l'humilité. C'est la première chose à la retraite, voyez. C'est de reconnaître que nous avons besoin du pardon du Christ. pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Besoin du pardon du Christ parce que nous sommes pécheurs, parce que nous ne sommes pas plus parfaits que nos pères, parce que nous savons très bien qu'il y a en nous un poids de péché, d'orgueil, de vanité, de grosse vanité. La grosse vanité, la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. Vous savez bien ce que ça représente. On veut toujours avoir raison. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut lui demander pardon. On ne lui demandera jamais assez pardon. Puis ensuite, il faut le prier. Et le remercier. Et pour demander à Dieu, pour entrer dans la prière, Jésus nous montre le chemin. Très simple, il le dit à la Samaritaine. Vous n'êtes pas plus pécheur que la Samaritaine, je crois pas. La Samaritaine était une pécheresse publique. Elle était un tout petit peu à côté, du point de vue de la foi. Un tout petit peu à côté. De sorte que les Juifs ne parlaient pas de Samaritaine. On dit aujourd'hui que c'était une sœur séparée, vous voyez, au point de vue de la foi. Pas tout à fait orthodoxe, pas tout à fait ce que Dieu voulait. Mais surtout, elle avait eu 5 maris. Ça, ça se savait. Pas possible autrement. Vous ne savez pas si c'était le 2e, ou le 3e, ou le 4e, ou le 5e. Comme il ne se ressemblait pas, c'était visible. Et donc, vous voyez bien, et que le dernier qu'elle avait n'était pas son mari. Et Jésus relève la chose quand elle dit « Je n'ai pas de mari. En cela, tu dirais. » Et que fait Jésus? Ah, Jésus, d'une manière admirable, arrache le pansement. Vous savez, quand on a 5 maris, le pansement, il est très bien fait. Première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième, cinquième. Personne n'a rien du tout. Tout le monde a oublié. Réduite à la corvée d'eau en plein midi, à la méridienne, alors que les hommes font tout simplement leur petite somme. Elle, elle vient chercher de l'eau. Cette pauvre femme, sûrement très pauvre, Jésus lui donne tout de suite comme précepte. Dieu est esprit. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est magnifique. Jésus indique lui-même le chemin qu'il faut prendre pour redresser la route. Et ceci, c'est vrai pour nous tous. Celui qui n'adore plus est un errant. Un errant. On peut être un errant en se regardant d'un point de vue psychologique. On ne peut pas être un errant si on reste attaché à Jésus. À Jésus comme fils bien-aimé du Père. On ne peut pas être un errant si on sait que Jésus est notre sauveur et qu'il est là pour nous et qu'on vient vers lui. L'adoration, c'est capital pour nous et on ne sait plus adorer. Adorer, c'est reconnaître que nous sommes dans les mains de notre Créateur. On est dans les mains de notre Créateur. Et alors à ce moment-là, il faut ouvrir toutes les portes. Il faut que Jésus lui-même frappe pour que notre cœur s'ouvre et que nous reconnaissions que le péché que nous avons risque toujours de fermer toutes les portes et qu'on n'entende plus Jésus qui frappe à la porte. Je frappais à la porte et j'entrerai. C'est dit dans l'Apocalypse. Je frapperai à la porte et j'entrerai. Et vous discernez la manière dont le Christ frappe. Il veut que nous ouvrions et nous ouvrons la porte en adorant. C'est en adorant qu'on ouvre tout grand son cœur. En reconnaissant que tout ce qu'il y a de bon en nous vient du Christ, vient du Père. Tout ce qu'il y a de bon en nous vient de Dieu. Et que les seules choses qui nous alourdissent viennent de nos fautes, de notre orgueil, qui nous empêchent d'être en présence. Qui nous replie sur nous-mêmes et qui fait que nous ne pouvons plus nous dépasser. Nous n'arrivons plus à nous dépasser. Et nous nous replions sur nous-mêmes, pensant trouver en nous le salut. Vous savez ce qu'a dit Saint-Père quand il est venu pour la première fois en France à Notre-Dame. Il voyait tous les évêques français à huis clos. Je n'y étais pas. Et je me suis précipité sur la documentation catholique dès qu'elle est parue. Elle a donné la locution du Saint-Père aux évêques. Et je l'ai lue attentivement. Et le Saint-Père disait, c'est au début de son pontificat, il disait, l'Église, c'est-à-dire les chrétiens vivent aujourd'hui une tentation comme ils n'ont encore jamais vécu. Et le Saint-Père, comme il est assez philosophe, parler d'une méta-tentation. Une méta-tentation. Et quelle est cette ça veut dire méta-tentation, ça veut dire une tentation radicale, comme jamais elle n'a encore existé, et qui est à la racine de toutes les tentations. Et le Saint-Père expliquait, c'est que l'homme arrivé à l'âge adulte, grâce à la psychologie, croit qu'il peut se sauver lui-même. Et qu'il est capable de se sauver lui-même. Et donc, il n'a plus besoin d'un sauveur. Place pour le Christ dans la culture d'aujourd'hui. Parce que c'est la culture de l'homme arrivé à l'âge adulte qui est persuadé qu'il peut se sauver lui-même. Et qu'il est capable de se sauver lui-même. C'est terrible ça. Oui, ça c'est l'orgueil collectif de l'humanité. Construit la tour de Babel, se croyant capable d'atteindre par lui-même le ciel, le visage du Christ, le salut. Et c'est vrai, quand vous regardez attentivement le mythe de la tour de Babel, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 11. Il faut lire ce texte dans cette perspective. Dieu est obligé de regarder de l'extérieur ce que fait l'homme et ce qu'a fait l'homme. Quand on travaille avec Dieu, détruit la tour de Babel par orgueil et dans un orgueil collectif. On a chassé Dieu de notre cœur. Dieu n'a plus de place dans notre cœur. Et Dieu est obligé de regarder de l'extérieur pour voir ce qu'ils font. C'est extraordinaire, ça, de comprendre qu'actuellement, le démon essaie de faire croire à l'homme qu'il peut se sauver. Et qu'il n'a plus besoin du Christ. Vous voyez, au point de départ de la venue du Christ, il n'y a plus de place pour lui à Bethléem. Et c'est de l'ordre, tout simplement, de l'humanité, de l'ordre humain. Maintenant, il n'y a plus de place pour le Christ comme sauveur. Je crois qu'on doit beaucoup réfléchir là-dessus. C'est un signe. Quand Saint-Père a dit ça aux évêques français, je crois qu'il parlait sous le souffle de l'Esprit-Saint. Pour nous révéler quelle est la grande tentation de notre monde d'aujourd'hui, la nôtre. C'est de croire que l'homme peut se sauver par lui-même. Et de découvrir les méthodes par lesquelles il peut se sauver lui-même. Et ça, c'est terrible, parce que l'homme ne s'avoue plus pécheur, et donc il ne reçoit plus, et il ne veut plus recevoir la miséricorde de l'Esprit-Saint et du Christ. Je crains que souvent, on est en présence de cette tentation et on ne la voit pas. Et on l'accepte. Et on accepte. Quelqu'un d'autre que le Christ peut nous sauver. Je crois que la retraite de la petite Thérèse de l'enfant Jésus doit nous aider à comprendre cela. Parce qu'elle l'a compris d'une manière magistrale. Et c'est peut-être son grand secret.